Je vous invite à tourner dans vos Bibles en Jean chapitre 10, même si ça a été l'objet de nos partages, réflexions dans les groupes de maison, quoiqu'il y ait un groupe qui n'a pas encore regardé le passage, donc ce sera, j'espère, d'autant plus pertinent après la prédication de ce matin. Nous lisons en Jean chapitre 10, au verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. La porte, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivent point un étranger, mais elles fuient loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent point de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. » Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, « Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient, « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque, un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» Prions s'il vous plaît, notre Père Céleste, merci de placer devant nous ce merveilleux texte qui présente Jésus, le bon berger, le vrai berger, celui qui est la porte, celui qui prend soin de nous. Donne-nous, Seigneur, de te contempler, ô notre Père céleste, au travers de ton Fils Jésus-Christ, de te donner toute la gloire pour ce merveilleux message en Christ que nous possédons, que nous pouvons lire ici librement ce matin. Merci de ta présence et veuille bénir ta parole et que toute la gloire te revienne, Jésus. Amen. Alors, j'ai envie de vous faire passer un petit examen ce matin, du moins ceux qui suivent les groupes de maison. Combien y a-t-il de « je suis » dans l'évangile de Jean ? Combien ? Sept ? Ah, voilà, quelqu'un qui écoute bien les leçons des groupes de maison. Il y a sept « je suis », en fait il y en a plus, mais on dit qu'il y a sept « je suis ». Alors, « je suis le pain de vie », Jean chapitre 6. « Je suis la lumière du monde », Jean chapitre 8, « Je suis la porte », le bon berger, on va le lire, Jean 11, « Je suis la résurrection et la vie », « Je suis le chemin, la vérité et la vie », Jean 14, « Je suis le vrai cep ». On a vu aussi que l'évangile de Jean a pour but de nous présenter sept des miracles, des 35 miracles qui sont mentionnés dans les quatre évangiles, comme des signes, dans le grec « semia », comme des signes pour montrer et révéler qui est Jésus-Christ. Alors peut-être que vous allez vous souvenir avec moi, le changement de l'eau en vin à Cana, Jean chapitre 2, la guérison du fils de l'officier du roi à Capernaum, Jean chapitre 4, la guérison d'un paralytique à la piscine de Bethsaida à Jérusalem, Jean chapitre 5, la multiplication des pains, Jean chapitre 6, la guérison de l'aveugle né, et puis la résurrection de Lazare à Béthanie. En fait, dans le texte qu'on a lu, on regarde que Jésus a dit, notamment, « Je suis la porte », c'est le troisième « Je suis ». Mais ici, on est déjà rendu au sixième miracle, au chapitre 9, donc qui précède le chapitre 10, évidemment, qu'on est en train de regarder. Quel est le verset clé de l'évangile de Jean ? Samuel, je sais qui le sait, Samuel. Allez-y, essayez. Ce silence est terrible. Alors, Jean chapitre 20, verset 30-31. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Le but de l'évangile de Jean, c'est de nous démontrer que si nous croyons, nous avons la vie éternelle. C'est merveilleux cela. Et le mot clé de l'évangile de Jean ? Croire, 98 fois, pistéou en grec, c'est juste à l'infinitif, il n'y a pas le mot foi, pisti, c'est juste le verbe, pour montrer que quelque part la foi, c'est une action, c'est pas d'être passif, ça demande d'être actif, on n'est pas passif par rapport à ce que Dieu nous présente, et que l'on peut croire ou pas croire. En fait, dans l'évangile de Jean, il y a une tension permanente. L'évangile de Jean retrace un drame. Jésus se présente, Jésus enseigne, Jésus guérit. Et il y a ceux qui croient, qui vont croire de plus en plus, même si Pierre, un jour, va renier son sauveur. Et quand le berger est frappé, les brebis vont être dispersées. Mais les disciples s'attachent de plus en plus, les vrais disciples s'attachent de plus en plus à Jésus. Et puis il y a ceux, au contraire, qui s'opposent, qui sont incrédules et qui deviennent de plus en plus incrédules, au point de crucifier Jésus, de vouloir qu'il meure. Et Jésus, dans les 8 premiers chapitres qu'on a déjà vus ensemble, est en train de manifester constamment son amour, de parler du Père qu'il a envoyé. C'est extraordinaire cela, n'est-ce pas ? Il témoigne de ce que le Père lui dit de témoigner. Il a dit « Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu mon Père ». Et Jésus exprime tout ce que le Père veut exprimer pour ce monde. Mais certes, il témoigne de sa relation avec Dieu le Père, de ce que Dieu le Père lui communique de donner. Mais en Jean chapitre 8, il y a un point d'inflexion. Jésus fait non seulement il témoigne de qui est Dieu le Père, de qui il est, mais maintenant il déclare un jugement sur ceux qui ne croiront pas. Par exemple, il dit, Jésus leur dit encore, et c'est à mon avis le point d'inflexion de l'évangile de Jean, au verset 21, chapitre 8, leur dit encore, « Je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché, vous ne pouvez venir où je vais. » Jésus avertit que celui qui ne croit pas va mourir dans son péché. Et donc va être privé de Dieu, et va être privé de Dieu non seulement sur terre, mais dans l'éternité, s'il n'a pas la foi. Et même il a une parole très dure envers ceux qui croient, qui sont les fils d'Abraham. Il est écrit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. C'est étonnant que des gens religieux, des gens qui connaissaient la Bible, des gens qui se disaient les fils d'Abraham, n'aient pas accepté Jésus comme le Messie qui était là présent au milieu d'eux. Dieu au milieu d'eux, Emmanuel, Dieu est avec nous. Ces gens pourtant religieux auraient dû discerner les temps et reconnaître en Jésus le Messie, celui qui était promis dans l'Ancien Testament, selon les prophéties. Ainsi, il y a ceux qui croient, et ceux qui croient de plus en plus, et il y a ceux qui ne croient pas, et qui deviennent de plus en plus incrédules. Et Jean chapitre 10, c'est la continuité de Jean chapitre 9, j'allais dire oui, c'est logique, oui, mais pas toujours, les chapitres des fois se succèdent avec des chronologies dans le temps différent, ou des temps morts entre les chapitres, et là ça se suit. Quel est le contenu du chapitre 9, brièvement, un aveugle né que Jésus rencontre, c'est Jésus qui va vers lui. C'est intéressant. Des fois, on voit dans l'évangile qu'il y a des gens qui vont vers Jésus, et puis d'autres fois, c'est Jésus qui va vers les gens. Et là, il rencontre cet aveugle-né, évidemment, il est plein de compassion, puis finalement, il le guérit. Il le guérit, alors les pharisiens, n'est-ce pas, sont scandalisés, parce que Jésus a guéri le jour du sabbat, imaginez. Leur légalisme, leur manque d'amour. Et l'aveugle-né se défend, et il ne sait pas qui est Jésus, il connaît le nom de Jésus seulement. Il y a beaucoup de gens qui connaissent le nom de Jésus, mais ils ne connaissent pas Jésus de façon personnelle. Et puis Jésus le rencontre à nouveau, il s'est défendu devant les pharisiens, devant ses parents. Il commence à professer Jésus sans connaître profondément peut-être le salut de Jésus et qui est Jésus. Et Jésus le rencontre et dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit « Et qui est-il Seigneur ? Afin que je croie en lui, tu l'as vu ?» lui dit Jésus. « Et celui qui te parle, c'est lui. » Il dit « Je crois Seigneur » et il l'adora. Donc on voit qu'il y a une progression dans la foi de l'aveugle-né qui finalement rencontre pleinement Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur et racheté et adore son Seigneur. Et c'est dans ce contexte où il y a les disciples, il y a l'aveugle-né, il y a la foule qui le presse et bien sûr les chefs religieux que Jésus veut quelque part prolonger ce qu'il vient de vivre. Parce qu'il dit par exemple à la fin du chapitre 9, il dit ceci, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui et entendu ses paroles lui dit, « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Et Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. L'aveugle-né ne voyait pas, Dieu a fait un miracle, il est la lumière du monde. » Il a dit, « Je suis le pain de vie. » Puis il a nourri la foule, n'est-ce pas? Il a dit, je suis la lumière du monde, il a guéri l'aveugle-né. Mais il y a ceux qui croient voir, et qu'en fait, ils sont réellement aveugles, spirituellement parlant. Ils ont besoin de comprendre qu'ils sont aveugles pour pouvoir avoir le miracle de la guérison divine dans leur cœur spirituel, pour enfin voir Jésus et croire en lui. Et Jésus voit que dans cette foule qui l'entoure, il y a ceux qui croient, comme l'aveugle-né, qui est rejeté par les pharisiens, qui est chassé de la synagogue, parce qu'à cette époque-là, ceux qui croyaient étaient exclus de la synagogue, et ceux qui s'attachent à lui, comme ses disciples. Et je dis ceci, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Il y a Jésus... Et dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, on nous enseigne que Dieu, son Père, est le berger d'Israël. Dieu, son Père, est le berger d'un troupeau maintenant spirituel qu'est l'Église. Il y a un vrai berger qu'est Jésus-Christ, mais il y a aussi des faux bergers. Des gens qui prétendent avoir l'autorité spirituelle, mais qui quelque part prennent possession ou veulent prendre possession des brebis sans en avoir vraiment l'autorité déléguée de Dieu le Père. Ce sont des faux bergers. Et aujourd'hui, dans la rue, des gens frappent à nos portes et partout où l'on voit des gens qui prétendent être des leaders spirituels et religieux pour conduire les brebis vers quoi exactement? Un jour, j'ai eu le témoin de Jéhovah chez moi. Ils m'ont convaincu que si je devenais témoin de Jéhovah, je n'aurais jamais l'assurance d'aller au ciel. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes n'ont pas l'assurance d'aller au ciel. Il y a des tromperies, des philosophies mensongères, des faux bergers dans ce monde. Et Jésus se présente comme le vrai berger. En fait, dans le texte que nous avons lu, à partir du verset 1 jusqu'au verset 21, il y a trois paraboles. Il y a la parabole du berger, versets 1 à 6, la parabole de Jésus qui dit « Je suis la porte », c'est une métaphore, une image, une illustration. Et puis enfin, du verset 11 jusqu'au verset 18, il y a Jésus qui est le bon berger. Donc trois paraboles. On a envie de les superposer ou de les rendre chronologiques. On a envie de dire, oui, la deuxième parabole explique la première, la troisième complète la seconde et la première. C'est une façon de voir. Mais en fait, c'est trois paraboles différentes. Et il y a une vérité essentielle que Jésus veut partager au travers de chaque parabole. On peut parfois faire des ponts et des liens, bien sûr, c'est Jésus, entre les trois paraboles, mais il y a trois grandes vérités que Jésus veut mentionner ici au travers de ces trois paraboles. Jésus est le vrai berger, Jésus est la porte et Jésus est le bon berger. En fait, ici, bon, pour anticiper un petit peu l'explication du passage ensemble, On peut voir de plusieurs façons Jésus qui forme son troupeau au début, Jésus qui l'amène paître, qui lui donne des pâturages abondants, et Jésus qui protège le troupeau. C'était le rôle du berger, n'est-ce pas, d'appeler ses brebis qui étaient dans l'enclos, de former son troupeau, d'aller les faire paître, et puis de les protéger, parce qu'il y avait parfois, évidemment, des prédateurs, des dangers par rapport aux brebis. D'ailleurs, dans le texte ici, j'ai relevé qu'il y a 9 fois, avec des mots différents, les ennemis des brebis. Jésus les mentionne comme voleurs, brigands, étrangers, mercenaires et le loup. Il y a des ennemis des brebis et Jésus, lui, est celui qui veut les protéger. Quelqu'un, dans un commentaire, il est écrit que, et on peut le lire dans plusieurs commentaires d'ailleurs, il y a l'image ici du berger qui vient à l'entrée de la bergerie tôt le matin, qui appelle ses brebis, qui réunit son troupeau, c'est le matin de bonne heure. Il les amène ensuite dans les verts pâturages, c'est la deuxième parabole, il les nourrit et puis il les protège, il en prend soin, c'est la troisième parabole. On va regarder tout d'abord du verset 1 à 6 cette première parabole. Quel est le rôle du berger décrit ici? Comment réagissent les brebis? Que signifie, que veut communiquer Jésus dans cette symbolique que représente le berger, la porte, le portier, la bergerie, évidemment, les brigands et les voleurs? Alors bon, j'ai fait un petit PowerPoint, je ne suis pas trop doué pour ça, mais on va essayer de le suivre et si j'oublie, ben vous suivrez avec moi autrement. D'accord? En fait, ici, donc, 3 paraboles, le vrai berger, il est la porte, il est le bon berger. Et puis, à la fin, il y a évidemment une réaction des Juifs, comme dans chaque enseignement ou guérison de Jésus, il y a une réaction qui est mentionnée. En fait, on ne peut pas être indifférent. Même l'indifférence est une réaction. Dieu voit, quand la parole de Dieu est prêchée, quand la vérité est communiquée, la réaction des cœurs. Il y a ceux qui acceptent et ceux qui rejettent. Ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Alors Jésus est le vrai berger, et tout d'abord on va regarder que Jésus vient de la bonne façon. Mais essayons de nous mettre dans le contexte des bergeries en Palestine. Souvent, dans le village, il y avait un enclos, vous savez qu'il y avait beaucoup de bergers en Palestine, et donc les bergers étaient plus nombreux, il n'y avait pas qu'un seul berger dans le village, chacun avait son troupeau, et le soir on ramenait chaque troupeau dans la bergerie, il y avait un portier qui était là, payé par les bergers pour garder les brebis, elles entraient dans l'enclos, et donc le matin, le berger, un des bergers, n'est-ce pas, ou le berger qui était propriétaire d'un troupeau, venait à la porte de l'enclos, il se présente, et puis il appelle ses brebis. Et là, ses brebis entendent sa voix. Parce qu'il connaît ses brebis, c'est merveilleux. Il y a une relation d'amour, de confiance, parce que le berger prend soin des brebis. Et donc, les brebis ont confiance en lui. Et les brebis le connaissent, notamment par sa voix. Et lorsqu'il les appelle, les brebis sortent. C'est l'image ici de celui qui rassemble son troupeau. Et puis, contrairement à un Occident, où c'est plutôt le berger qui est à l'arrière, et puis qui, avec des chiens, amène les brebis vers les vers pâturages. Là, en Israël, le berger était devant et les brebis le suivent. Donc c'est l'image ici, n'est-ce pas, que l'on voit. Comme il est question après au verset plus loin, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Rapidement, on comprend ici que c'est la bergerie qui représente Israël. Mais le vrai berger, Jésus est le vrai berger, c'est ce que nous allons commencer de regarder, il vient de la bonne façon. Il n'est pas comme ce brigand ou comme ce voleur qui est obligé de passer autrement que par la porte, parce que les brebis ne lui appartiennent pas. Mais Jésus passe par la porte et puis il appelle ses brebis, le portier l'accueille. Donc Jésus se présente de la bonne façon devant la bergerie. Est-ce que Jésus avait le droit de se présenter dans l'enclos d'Israël pour chercher ses brebis? Mais certainement, les prophéties de l'Ancien Testament avaient déclaré que Jésus devrait naître d'une vierge et qu'il serait le berger d'Israël. D'ailleurs, on n'a pas le temps de le regarder malheureusement, en Ézéchiel 34, il y a toute une référence ici à lire tôt ou tard, si vous lisez Jean chapitre 10. Dieu, à un moment donné, dit que les bergers en Israël, donc les leaders spirituels, les leaders religieux, et même les chefs politiques, négligent le troupeau de Dieu. Que les bergers sont des faux bergers, que Dieu va les mettre de côté. Quand Dieu appelle un berger à s'occuper d'un troupeau, il s'attend à ce que le berger prenne soin du troupeau, connaisse bien chacune de ses brebis et l'aime et le soigne, parce que les brebis, pareil que les brebis sont des animaux les plus stupides qui existent. C'est bon de savoir ça, hein, ça nous humilie. Trouvez pas, je suis stupide. Vous êtes stupide. Non, excusez-moi. Mais on a tous, quelque part, la stupidité, la brebis. On trébuche, on ne sait pas où se diriger, on tombe, on a des parasites, on peut mourir. Une brebis qui tombe sur le dos, qui ne peut pas se relever, elle peut mourir étouffée. Elle va dans des endroits difficiles, escarpés. Peut-être elle ne connaît pas le danger du prédateur possible. Elle peut se noyer facilement. Et le berger prend soin fidèlement de chacune de ses brebis, parce qu'elles lui appartiennent, et les brebis le suivent. Donc Jésus, oui, il avait le droit de venir en Israël, même si on sait qu'il a été rejeté. Il avait le droit de se présenter comme étant le Fils de Dieu. Et le portier lui ouvre la porte. Qui c'est qui a ouvert la porte au ministère de Jésus? Alors, moi j'ai une conviction là, il peut y avoir d'autres interprétations, mais je crois que c'est Jean-Baptiste qui a ouvert la porte du ministère de Jésus en Israël. Il a ouvert la porte, il pouvait passer par cette porte qui pour moi est le symbole de l'alliance de Dieu envers son peuple, la loi, les 10 commandements. Jésus passe par au bon endroit, Jésus accomplit la loi. Oui, il avait le droit, Jésus, de se présenter devant Israël et d'être préparé, dans le chemin d'être préparé afin qu'il appelle les brebis spirituelles. Vous savez, quand Jésus est venu sur terre, la Bible dit que les siens ne l'ont pas reçu. C'est quelque chose de terrible cela. Mais comme il y a toujours eu un faible reste d'Israël, il y a ceux qui étaient spirituels. Et bien sûr, il y avait Israël, les Juifs en général, mais il y a ceux qui connaissaient le Seigneur, et ils étaient plusieurs, Joseph, Marie, Siméon, Jean-Baptiste. C'était des gens spirituels qui d'ailleurs attendaient le Messie. Et puis ceux qui suivaient une tradition, ça vous est jamais arrivé de suivre une tradition sans trop savoir pourquoi et comment? Et vous suivez le troupeau de ces gens religieux, et vous êtes allé peut-être à l'église même plusieurs fois dans votre vie, mais sans trop comprendre le vrai sens, n'est-ce pas, d'une vraie spiritualité. Alors Jésus avait un peuple à part qu'il devait appeler, et il l'appelle, et c'est l'Israël spirituel qui sort de cet enclos. Et Jésus appelle ses brebis par leur nom, parce qu'il les connaît. Et quelque part, le Saint-Esprit, ça peut être aussi une image cachée dans ces premiers versets, le Saint-Esprit a préparé les cœurs. C'est vrai que Jésus a dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Mais le Saint-Esprit prépare les cœurs. Cela est bon, agréable devant Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui prépare un cœur à accepter le salut. Et quand le cœur est prêt, parce qu'il a suffisamment de lumière et qu'il accepte cette lumière, le jour où le berger se présente, il est attiré par lui et il le suit. Et c'est l'image ici des brebis, n'est-ce pas, qui suivent finalement le vrai berger. Alors Jésus se présente comme de la bonne façon, il est reçu par le portier, il appelle ses brebis par leur nom, et puis les brebis les suivent et sortent de l'enclos. Excusez, je ne vois pas très bien, c'est petit. Et c'est merveilleux. Il n'est pas dit dans le texte que Jésus les a ramenés dans l'enclos. Jésus, quand il sort quelqu'un de sa religion, il ne le ramène pas dans sa religion. Il l'amène dans une relation. Une relation de berger à brebis. Une relation d'amour, de confiance, de sécurité, de protection. Tel est notre berger. Et un jour, Dieu nous a appelés. C'est vrai que la Bible dit qu'il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais un jour, Dieu nous a appelés. Et nous avons répondu à son appel. Nous nous sommes sentis attirés vers lui. Et nous avons répondu oui. Et nous l'avons suivi, peut-être dans une certaine confiance, comme l'aveugle-né, en fait. Jésus reprend ici en chapitre 10 ce qui vient de vivre avec l'aveugle-né. Jésus est allé vers l'aveugle-né, il l'a appelé, bien sûr il l'a guéri. L'aveugle-né se demandait trop qui était Jésus, puis il le rencontre et là il entre dans un parfait salut. Jésus nous amène hors de peut-être la tradition. On n'a pas demandé de naître dans telle ou telle religion. Il y a l'enclos, vous savez, du judaïsme pour les Juifs qui était très puissant et qui empêchait les Juifs de croire au Messie. Vous vous rendez compte? Celui-là même qui avait créé le peuple d'Israël dans une sainte alliance avec les 10 commandements, Dieu le Père envoie le Fils, et le Fils est rejeté par ceux à qui il s'est adressé au travers des siècles. C'est l'aveuglement à cause du péché, à cause du diable aussi. Alors Jésus les sort de l'enclos et puis les emmène dans d'autres pâturages et les brebis ne veulent plus écouter les étrangers, ne veulent plus écouter les faux prophètes, les faux bergers. Il y en a assez, on veut la vérité, on veut vivre dans la vérité, donc on suit Jésus. C'est merveilleux cela. Sauf qu'il est écrit, Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Ça fait peur parfois, peur, en tout cas une sainte crainte, de voir des gens à qui nous parlons de l'Évangile ou des gens qui sont exposés à l'Évangile et qui continuent de résister malgré qu'ils sont exposés à la lumière et encore plus à la lumière et qui résistent. Et comme toute parabole, eh bien, Jésus enseigne des paraboles pour ceux qui doivent comprendre, ils comprennent, et pour ceux qui ne peuvent pas comprendre, c'est un aveuglement. Et c'est le cas ici de ces chefs religieux. Mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Avez-vous compris le message de Jésus déjà ? Qu'il est le vrai berger. Placez votre confiance en celui qui ne vous décevra jamais. Il est le vrai berger, évidemment, celui qui nous sort de l'enclos de nos religiosités, de l'enclos de nos péchés. Est-ce que déjà vous êtes sorti de l'enclos pour tendre la main vers Jésus parce que lui vous a tendu la main ? Nous lisons au verset 7, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Jésus souvent parle par contraste. Il est le vrai berger, il y a les faux bergers. Et il dit ici encore, je suis la porte, mais encore il dit, il y a des voleurs et des brigands. Les brebis sont en danger. Et Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur, encore une fois, il est écrit, ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Je me souviens une fois, je vous raconte une anecdote personnelle, excusez-moi pour cela. J'étais dans l'équivalent de Lourdes au Québec, la Sainte-Anne-de-Beaupré. Et nous essayons d'atteindre les pèlerins qui venaient là, très nombreux, jusqu'à ce qu'on nous mette dehors. Mais je suis rentré dans le sous-sol de la grande église de Sainte-Anne-de-Beaupré. Et là, j'ai vu des gens comme moi. J'ai été très religieux avant. J'étais brancardier à Lourdes et j'étais sincère. Mais j'aime bien dire sincère, mais sincèrement perdu, sans le savoir. Et puis les gens là étaient là en train de prier. Puis j'entendais dans le haut-parleur, Marie, alors il fallait adorer Marie, Marie, mère de fille de Dieu, mère de Jésus. Enfin, tout ce que disait le speaker, c'est que finalement, ben, l'intermédiaire, maintenant, c'était Marie. Et c'était plus Jésus. Alors le prêtre est venu me voir et il a voulu me mettre dehors. J'ai dit, vous entendez cela ? Il m'a dit, oui, c'est dans la Bible. J'ai dit, comment ça ? J'avais une Bible. J'ai dit, montrez-le-moi. Il n'a pas été. Oui, non, mais si Marie est la mère de Jésus, alors elle est la fille de Dieu. Donc il faut passer par elle. Puisque, voyez-vous, ça c'est les faux bergers, c'est la fausse doctrine. Vous avez déjà été victime de fausses doctrines. J'avais tellement mal au cœur de voir des gens qui priaient avec leurs chapelets et qui étaient malheureusement des gens aveuglés, conduits dans l'erreur, dans une fausse doctrine. Peut-être que dans leur cœur, il y avait une vraie sincérité de chercher Dieu, mais ils étaient trompés. Vous vous êtes jamais senti trompé dans votre vie ? Peut-être consciemment ou inconsciemment. Moi, je me suis senti trompé un jour. J'ai compris un jour dans ma vie, lors du décès de ma maman, que j'avais été trompé par la religion de mes pères, parce qu'il n'y avait pas la vérité qui est apparue ce jour-là. Est-ce que vous êtes déjà senti trompé ? Mais Jésus, il est la porte. C'est extraordinaire, Jésus est la porte. Et ici, il y a quelque chose de merveilleux. Jésus est la porte. Alors, je ne vais pas aller plus vite que mon PowerPoint. Il est la porte du salut, il est la porte du pâturage et la porte de la vie abondante. Vous savez, Jésus, il est le berger qui sort les brebis, puis maintenant, il est la porte. Tiens, il n'est pas dit ici qu'il ramène les brebis dans l'enclos, le premier enclos. C'est pour ça que des fois, il est difficile de faire suivre ces deux textes ensemble. Mais maintenant, il devient la porte. C'est une relation personnelle. C'est une personne, la porte. Il dit, ici, quelqu'un entre en moi, il sera sauvé. Alors, le mot grec, sauvé, ça peut être délivré des brigands, délivré des voleurs. Mais il y a tellement de textes dans le Nouveau Testament qu'on sait ce que ça veut dire d'être sauvé. Délivré du péché, de la puissance du péché, délivré du diable, de la puissance du diable, délivré de la mort. Par la puissance de Christ, par sa résurrection. Un jour, on sera ressuscité avec lui, plein de vie. Dans la vie éternelle, parce qu'on est passé par la porte. Jésus est la porte. Il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Ceux qui sont venus avant lui, bien sûr, ce ne sont pas les chefs comme Moïse, Josué, David, Salomon, Esdras, Néhémie, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel et parmi tant d'autres. Ce sont tous ceux qui sont venus, qui sont les faux bergers d'Israël, les rois méchants, les sacrificateurs corrompus, les faux prophètes et les pseudo-messies. Tous ceux qui se disaient messies avant lui, mais qui n'ont jamais rien délivré et fait quoi que ce soit pour le peuple d'Israël sur le plan spirituel. Il est dit, voilà, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera. C'est l'expérience d'une relation intime avec Jésus-Christ. C'est le salut. Et ici, il y a quelque chose d'extraordinaire. Les brebis étaient craintives parce que trompées par des faux bergers. Et là, elles sont en pleine sécurité dans l'enclos. Et elles vivent une grande liberté. Elles peuvent entrer dans l'enclos, elles sont en sécurité, elles peuvent sortir, elles sont encore en sécurité, mais elles vont vers des verts pâturages. Jésus est la porte, et quand on passe par lui, on entre dans une relation intime avec lui. C'est une relation qui nous amène à une vie abondante. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le jour où on accepte Jésus-Christ, on est en Christ. C'est merveilleux. On a une vie abondante. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la bénédicité, c'est la tempérance. Est-ce que vous vivez dans cette abondance-là? Jésus vous l'offre gratuitement. Ce que celui qui a soif vienne à moi. Et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est la présence de l'esprit qui apporte chez le croyant une vie abondante extraordinaire, une vraie liberté. En tant qu'enfant de Dieu, je suis libre, je suis libéré de la puissance du péché. Et je peux vivre en Christ en toute confiance. Maintenant, il m'a sorti de l'enclos, je l'ai suivi. Et maintenant, j'entre dans un plein salut, une vie abondante. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23. Seul Christ peut donner cette plénitude et cette vie abondante. Et puis, nous devons aller un peu plus vite. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors, Jésus est le bon berger parce qu'il meurt pour ses brebis. Jésus est le bon berger parce qu'il connaît et aime ses brebis. Jésus est le bon berger parce qu'il rassemble ses brebis. On va regarder ça rapidement. La Bible dit, nous étions tous errants comme des brebis, Ésaïe 53, chacun suivait sa propre voie. Si Jésus n'était pas mort pour nos péchés, nous ne pourrions pas être sauvés. Bien sûr que le berger peut être là, pris par le temps et resté dehors, et puis il est obligé de prendre soin de ses brebis, particulièrement dans la nuit, il n'a pas eu le temps de rentrer peut-être à la bergerie. Il y a des dangers, il y a des prédateurs, il y a des voleurs qui peuvent venir même avec des armes, n'est-ce pas, pour tuer le berger et s'emparer des brebis. Alors le berger, celui qui est le vrai berger et le bon berger, il va protéger ses brebis contre le loup, contre les prédateurs, contre les mauvais, les voleurs. Mais seul Jésus, lui, volontairement a déclaré qu'il allait mourir pour les brebis. Ce n'est pas qu'il a dit, si j'ai une foi, j'ai une chance de mourir pour mes brebis en tant que berger, je vais le faire. Il est venu sur la terre, il s'est incarné pour mourir. Apprend l'obéissance jusqu'à la mort de la croix, c'est son incarnation. Jésus est venu, il savait qu'il allait mourir pour les brebis. Savez-vous que Jésus, le Fils de Dieu, est mort pour vous? Savez-vous qu'il a pris vos péchés à la croix? Savez-vous qu'il vous aime de cet amour-là? Dieu fait homme, est mort pour que vous ayez la vie, pour qu'il puisse faire de vous sa brebis. Il y a un contraste frappant entre le mercenaire et le berger. Le mercenaire, c'est un salarié, peut-être un berger salarié, qui peut prendre soin un certain temps, n'est-ce pas, des brebis. Mais lorsque le loup vient ou les dangers arrivent, il s'enfuit parce qu'il n'est pas propriétaire. Il n'a pas un intérêt à risquer sa vie, n'est-ce pas, pour ce qui ne lui appartient pas. Mais le berger d'Israël, Jésus, lui est prêt à mourir pour ses brebis. Il n'agit pas comme un mercenaire, il agit comme celui qui est prêt à mourir, n'est-ce pas, pour ses brebis. Parce qu'il les aime, il les connaît. Au verset 14, il est écrit, « Je connais mes brebis, elles me connaissent comme le Père me connaît, comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. » Arrêtons-nous juste un instant là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire cela ? Je connais mes brebis, elles me connaissent. Donc une relation de berger à brebis qui s'installe, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Ça veut dire que Jésus veut que ses brebis aient une relation, une connaissance de leur berger, telle que Jésus a lui-même avec Dieu le Père. Vous vous êtes jamais senti parfois limité, dire, mais est-ce que vraiment je peux grandir encore dans le Seigneur ? Est-ce que vraiment, oui, je crois qu'on sait qu'on connaît jamais assez, mais que parfois on se sent limité dans l'expérience. Mais sachez que Jésus veut nous apporter une connaissance de qui il est dans une relation de berger à brebis, telle qu'il vit avec Dieu le Père. Et sa relation, n'est-ce pas, est une relation d'amour illimité, de grâce, de miséricorde. Ne vous découragez pas, ne vous désespérez pas. Dieu vous aime, si vous êtes une de ses brebis, il a des plans merveilleux. Et son plan principal, c'est que nous connaissions Jésus-Christ, son Fils. Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ ? Est-ce que nous avons appris à le connaître ? Il est possible d'entrer dans une relation d'amour avec Christ qui a pour label de qualité celle que le Fils de Dieu a avec Dieu le Père et Dieu le Père avec le Fils. C'est extraordinaire cela, n'est-ce pas ? Jésus, il est écrit enfin versets 16 à 18 qui va rassembler le troupeau. On dirait qu'il a sorti des brebis, n'est-ce pas, de cet enclos. On pense que c'est le judaïsme, l'enclos. Il les a sortis, mais le tableau n'est pas complet. Jésus dit, voilà, il y a d'autres brebis que je vais ajouter à ce nouveau troupeau que j'ai formé. Évidemment, ce sont les païens. Et en Éphésiens, Colossiens, il est écrit que Dieu a formé un seul corps en Christ, tant païen que juif. C'est merveilleux cela. Voyez-vous, même avant que vous deveniez une brebis du Seigneur, Jésus pensait à vous. Il vous a aimé. Et il savait que vous viendrez sa brebis. Et déjà, il planifiait de vous placer dans son Église, qui est son corps. C'est précieux l'Église. C'est le corps de Christ, dont il est lui seul la tête. Hein. C'est lui seul le directeur. C'est lui seul le bon berger. C'est lui seul qui dirige. C'est lui seul qui mérite honneur, louange et gloire. Lui, le vrai berger. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Cette église est un exemple d'un seul troupeau, de gens très différents, de gens venant de différents pays, mais une fois que le Seigneur est là, nous formons un seul corps, nous sommes unis, et c'est merveilleux de voir l'amour de Christ qui se répand dans nos cœurs par son esprit. Vous savez, Jésus, il est écrit ceci, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Jésus a donné sa vie. Ce n'est pas que Dieu lui a imposé de donner sa vie, Jésus a donné sa vie, et puis il est écrit, j'ai le pouvoir de la reprendre. Alors il n'y a pas de message de salut sans la croix et la résurrection. Jésus est celui qui s'est donné volontairement et c'est celui qui avait le pouvoir de dire « Je vais ressusciter ». Vous avez déjà essayé de penser à quelqu'un qui allait mourir, qui dit « Je vais ressusciter hein ?» Mais Jésus, lui, il avait ce pouvoir parce qu'il a été donné Dieu le Père. Il a eu le pouvoir de mourir. Ce n'était pas un suicide. C'était quelque chose que volontairement il voulait accomplir pour Dieu le Père par amour de chacun de nous. Et puis, il a cette puissance de la résurrection. Alors, comme toujours, dans l'évangile de Jean, il y a une double réaction. Il y a ceux qui croient, ceux qui ne croient pas. Et puis, ceux qui ne croient pas, ben, c'est facile quand on ne peut pas expliquer les choses. Voilà, c'est un démon. Puis, parce qu'il est un démon, il est fou. C'est comme ça qu'on a traité Jésus. Et puis, il y a ceux qui disent ceci. Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ? Jésus a prouvé par ses œuvres, n'est-ce pas, qu'il est le Fils de Dieu. Qu'allons-nous faire du Fils de Dieu ? Il y a un défi personnel pour répondre à cette question. Croyez-vous que Jésus-Christ est le bon berger ? c'est ce que nous avons essayé de regarder ce matin. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous êtes sa brebis? Vous avez un choix à faire. Alors merci Seigneur, dimanche dernier, il semble que beaucoup aient fait ce choix. Ça nous réjouit. D'ailleurs, j'aimerais bien vous connaître, ceux qui ont fait ce choix, et d'autres parmi nous ici, venez vous présenter, expliquer pourquoi vous avez fait ce choix, et dites-le nous, on veut prier avec vous. Et peut-être il y a quelqu'un ici ce matin qui désire aussi faire ce choix. Alors j'aimerais qu'on puisse terminer juste dans la prière, s'il vous plaît. Ô notre Père, vraiment nous voulons nous humilier devant toi. Nous n'avons qu'esquissé que quelques traits de ce portrait de Jésus comme notre berger. Et nous aimerions encore plus te connaître, Seigneur. Il y a peut-être quelqu'un parmi nous ici ce matin qui désire accepter Jésus-Christ dans son cœur. L'appel de Dieu est permanent. Il y a eu un appel dimanche dernier, mais je crois que l'appel de Dieu est... Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus s'est présenté à l'enclos, à la porte de l'enclos de votre vie. Peu importe où vous êtes, maintenant, il désire que vous le suiviez, que vous entriez dans le salut et que vous puissiez bénéficier d'une relation d'amour avec lui extraordinaire et éternelle. Pendant que nos têtes sont baissées, nos yeux sont fermés pour ce moment de recueillement, y a-t-il quelqu'un ce matin qui... Pensez pas faire un appel, à vrai dire, mais peut-être il y a quelqu'un ici ce matin qui dit « Priez pour moi, oui, je voudrais avoir cette relation avec le berger. » Pourriez-vous lever la main juste un instant et dire « Oui, je désire me donner. » Peut-être vous êtes déjà donné au Seigneur, je ne vous connais pas tous ici ce matin. Voilà. Notre Père Céleste, merci de nous avoir encore rappelé ou enseigné ces choses précieuses de ta divinité, de ton amour et ta bonté. Nous t'en donnons toute la gloire, Seigneur, et nous te prions de nous accompagner durant cette journée encore, de méditer sur le fait que tu es notre berger et que nous pouvons avoir une pleine confiance en toi. Au nom de Jésus. Amen.